Peut-on réellement affirmer que les extrêmes se rejoignent? Ne serait-ce pas céder à une idée reçue? Y aurait-il véritablement une convergence possible entre des projets diamétralement opposés? C'est tout l'objet du livre de Frédéric Martel, Occident, qui paraît aujourd'hui chez Plon. Bonjour Frédéric Martel.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, sociologue, vous animez l'émission Soft Power sur France Culture et vous avez publié de nombreux livres, notamment Sodoma, une enquête consacrée à la culture du secret sur l'homosexualité qui prédomine au Vatican. Et c'est à nouveau un livre-enquête que vous publiez aujourd'hui puisque ce livre vertigineux est le fruit d'une enquête menée dans 52 pays durant 8 ans. Vous avez réalisé près de 2000 entretiens avec essentiellement des intellectuels, des propagandistes, des idéologues. On reviendra sur les caractéristiques de tous ces acteurs que vous avez rencontrés. Mais auparavant, j'aimerais vous demander très simplement comment est né ce projet? Comment on se lève un matin en se disant « je vais aller rencontrer tous ceux qui sont responsables du chaos du monde ?»
On ne se lève pas un matin pour se lancer dans un projet de ce type. Vous l'avez dit, c'est un projet très long, c'est un projet aussi extrêmement complexe dans bien de ses aspects. Ça naît peu à peu. Mmh. Au début, vous avez déjà... Il y a des sujets que vous creusez. Moi, je vais par exemple chaque année, ou presque, en Israël, au Liban, en Égypte. Et donc, j'emmagasine, et c'est d'ailleurs, c'était déjà le cas pour d'autres livres, des entretiens, des idées, etc. Et puis, peu à peu, vous prenez des notes. Vous ne commencez à écrire que beaucoup plus tard. Mmh. Donc, le moment où le livre, je dirais, se construit vraiment, c'est vraiment à partir du moment où vous écrivez. Auparavant, vous avez des carnets, des centaines de carnets avec des choses qui partent dans tous les côtés. En fait, ce livre, c'est quoi? C'est un écrivain français, très ancré dans le monde français, et qui ne comprend pas trop ce qui se passe au niveau international. Qui se dit, comment se fait-il que nos valeurs, assez banales finalement, la démocratie, les droits de l'homme, des choses sur le pluralisme, la liberté d'expression, de conscience, des choses qu'on chérit depuis la Révolution française au moins et que tout le monde partage. Il n'y a même pas vraiment de débat sur ça, même si bien sûr on peut critiquer l'Union européenne ou la démocratie dans un certain nombre de ses dérives ou de ses erreurs. Mais sur le principe même, il y a eu une sorte d'unanimité, heureusement. Mm-hmm. Et comment se fait-il que des gens inventent des théories, les islamistes par exemple en Iran où je suis allé, ou les frères musulmans, mais aussi les Chinois construisent une espèce de réflexion très poussée, aussi poussée parfois qu'on l'a fait depuis les Lumières, pour essayer de démontrer que la démocratie n'est pas quelque chose à suivre,
etc. etc.
Et donc l'idée, c'est au lieu de se lamenter de la guerre, parce qu'il y avait déjà dès le début la première, disons, guerre en Ukraine, notamment avant même la guerre à grande échelle, menée par Moscou, aussi l'Amérique latine, qui est assez importante pour moi. Puis Donald Trump qui arrive, qui vient comme une espèce d'éléphant, je ne sais pas si c'est la bonne expression, dans un jeu de quilles tout perturbé. Donc l'idée, c'est ne pas rester chez soi à se lamenter ou à faire un essai. Moi, j'écris pas jamais des essais pour donner mon point de vue sur le monde qui ne va pas bien. Mmh. Mais je me suis dit, allons sur le terrain, allons voir ces gens, avec empathie, si possible, avec même une forme de sérieux, de professionnalisme.
Mmh, avec écoute.
Voilà. Mmh. Pour après, dans un deuxième temps, déconstruire leur discours et les démasquer. Voilà, c'était ça le projet.
Mmh. Alors, je le disais à l'instant, c'est un livre colossal, vertigineux. Si vous le voulez bien, commençons par le commencement, le titre. Occident. Donc, vous avez placé un S à Occident et vous expliquez que l'Occident n'existe pas, puisque ça ne renvoie à aucune réalité géographique. En revanche, il existe des fantasmes, des projections qui sont plaquées par ceux qui détestent cette idée de l'Occident. Et vous distinguez deux galaxies de forces anti-occidentales. Alors expliquez-nous un petit peu quelles sont ces deux sphères et quels sont leurs ressorts principaux.
Ce que je constate en effet, c'est que ici même, en Europe, on n'utilise pas le mot Occident. Vous n'êtes pas occidental, vous ne dites pas « bonjour, je suis occidental ». Donc chez nous, ce n'est pas quelque chose qu'on va vraiment mettre en avant. Et en revanche, des ennemis qui sont très divers et qui ont d'ailleurs des objectifs diamétralement opposés vont plaquer, calquer sur ce mot d'Occident toutes leurs peurs, leurs fantasmes, leurs ressentiments. Et ils vont le faire en s'inventant un Occident. Donc en réalité, c'est une image, l'Occident, c'est même un mirage, quelque chose qui est presque un épouvantail construit de toutes pièces. Et donc en effet, je pense que ça n'existe pas, ou qu'en réalité, c'est tellement diffus, vous l'avez dit, géographiquement, c'est pas cohérent, puisque vous avez le Japon, l'Australie qui sont dedans. Intellectuellement, les valeurs ne sont pas propres à l'Occident. L'Inde, l'Indonésie, d'autres pays sont des démocraties, le Brésil. Sur le plan économique, on peut dire que l'économie de marché réunit ces pays, mais beaucoup d'autres pays qui ne sont pas occidentaux ont également l'économie de marché. Donc en réalité, c'est une espèce de mot valise. Valise, c'est presque un paquebot, puisqu'on y met tout ce qu'on veut dedans, qui en réalité n'est pas pertinent. Voilà. Alors pourquoi Occident plus, Occident moins? C'est que je pense qu'il y a deux ennemis pour nos valeurs. Il y a d'abord l'ennemi traditionnel qu'on connaît depuis au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, mais même avant, c'est-à-dire, disons, le communisme stalinien, etc., jusqu'au néo-communisme, qui est aussi, et on reviendra tout à l'heure sur le croisement des deux extrêmes, les rouges-bruns avec Poutine, qui est effectivement une figure née dans le communisme, du KGB quand même, clairement, avant la chute du mur. Les mafias aussi, très liées, à ces espèces de kleptocratie que l'Union soviétique a engendré à domicile, mais aussi dans tous les pays satellites. Donc Poutine, c'est un peu ce rouge-brun déjà. Mais aussi la Chine de Xi Jinping, qui en tout cas se présente à nous comme étant un pays communiste ou marxiste-léniniste, disons. Et c'est vrai aussi d'un certain nombre d'autres pays qui sont des ennemis classiques parce qu'ils veulent au fond détruire l'Occident. Ils veulent l'éloigner et à minima le remettre à sa place, puisqu'il ne représente pas, des valeurs à suivre. Donc c'est aussi l'islamisme qui a construit sous différentes formes depuis très longtemps un discours aussi très anti-occidental, y compris jusqu'à réécrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Et puis, réécrire, c'est-à-dire ?
Oh ben en fait, il y a une nouvelle déclaration qui a été écrite, formalisée par l'organisation islamique, qui va naître au moment un peu de la fin du nationalisme arabe, porté essentiellement par l'Iran, l'Iran qui n'est pas encore l'Iran des Mollahs, mais qui est encore, un Iran pour une part lié aux États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est l'idée. Mais les Chinois font pareil. Ils ont aussi essayé d'imaginer une définition de la démocratie, des droits de l'homme, de la souveraineté nationale, qui n'est pas celle des Lumières, pour aller vite. Et la nouveauté de notre époque, donc ça c'est l'Occident moins, c'est-à-dire des gens qui en veulent moins, qui veulent plus d'Occident et qui veulent s'émanciper de cette idéologie et qui considèrent qu'elle ne doit pas maîtriser au moins sur le plan intellectuel le reste du monde. Et puis il y a ce que j'ai appelé un Occident plus, qui est finalement quelque chose d'un peu nouveau, très différent, opposé même à ce communisme ou à cet islamisme. C'est, l'idéologie hyper occidental, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'il faut revenir à l'Occident, il faut plus d'Occident.
Parce qu'il y a une forme de décadence.
Voilà, parce qu'ils considèrent qu'au fond, l'Occident est décadent, qu'on a perdu nos valeurs, qu'on n'est plus défenseur de la religion, qu'on a perdu la religion, qu'on a abandonné et qu'on est devenu trop laïque, séculaire, mais aussi qu'on a abandonné la famille, qu'on est devenu woke, etc. Et ça, c'est évidemment le discours de Donald Trump. Alors, peut-être pas lui-même, parce que c'est évidemment pas un intellectuel, et il n'a pas, Trump n'a sans doute pas intellectualisé, ni même, c'est pas un idéologue, Trump. Je crois que c'est une erreur d'idéologiser ou d'intellectualiser Donald Trump. En revanche, il y a autour de lui un certain nombre de figures. Je commence avec Steve Bannon, mais on peut dire que J.D. Vance l'est aussi, tout un tas d'autres intellectuels qu'on appelle des lumières sombres, dark enlightenment, qui nourrissent ce type de projet. Mais on a aussi ça chez Milley, on a aussi ça en Argentine, un peu chez Katz, tout récemment au Chili, et aussi dans la Hongrie de Orban. Et ce qui est, je m'arrête là, mais ces deux extrêmes, finalement, la destruction de l'Occident, la suppression de l'Occident et l'hyper-occidentalisme, sont deux critiques qui nous sont faites par deux bords opposés et qui, en réalité, se rejoignent. C'est l'une des thèses du livre, notamment parce que, la haine de la liberté au sens du libéralisme politique, du pluralisme, tout simplement de la modernité, c'est très important, je crois, la modernité, et enfin de la démocratie, en tout cas telle que nous on l'aime, les amène à nous critiquer.
Mmh. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la matière première de votre livre, ce sont les discours. Vous avez décidé de prendre au sérieux ce qui était dit sur l'Occident, contre l'Occident. Et vous êtes parti à la rencontre des personnes qui produisent donc des idées, des visions du monde, et de telle sorte que vous êtes capable de brosser des portraits de certaines personnes donc, que vous avez rencontrées. Vous avez évoqué à l'instant Steve Bannon, et c'est précisément sur lui que s'ouvre votre livre.
Oui, l'idée, c'est de faire un livre, on dit ça dans le métier, disons, un peu universitaire. C'est un livre à la fois journalistique et académique. Et d'ailleurs, il n'est ni l'un ni l'autre, et il est un peu les deux à la fois, parce que c'est un peu ma méthode. Il n'y a pas de notes de bas de page, il n'y a pas de bibliographie. Tout ça existe,
mais je l'ai mis
en ligne, il y a plus de 250 pages de notes, de références. Mais le livre, c'est d'abord une histoire que je raconte. Et j'ai choisi d'utiliser essentiellement des matériaux de première main. C'est-à-dire que j'ai lu, bien sûr, les biographies, les analyses, les histoires sur toutes ces zones. C'est d'ailleurs beaucoup de travail, puisque c'est beaucoup de figures, certains continents ou pays que je connaissais assez mal. Mais c'est d'abord aller au contact des gens, les écouter. Donc c'est basé sur des sources de première main, c'est-à-dire ce que vont me dire les gens, de documents ou d'éléments d'observation que je peux faire sur le terrain, et me nourrir de ça pour ensuite raconter une histoire. Hein, je dis une histoire, tout est évidemment vrai, c'est ce qu'on appelle de la narrative non-fiction comme style, c'est-à-dire que c'est raconté, c'est écrit même sur un plan. J'essaye assez littéraire,
tout
le style est très important,
mais
c'est de la non-fiction, c'est-à-dire c'est du journalisme, tout est vrai, si je décris quelqu'un, j'ai été avec lui.
Et donc Steve Bannon ?
Steve Bannon, en fait, c'est lui qui me contacte. J'avais fait un livre sur le Vatican un peu plus tôt, et je travaillais déjà pour partie à ce livre, mais il n'était pas très très bien, je dirais, défini. Et Steve Bannon me contacte, on m'avait prévenu d'ailleurs, et il veut me rencontrer, il m'invite à déjeuner, d'abord à Paris, ensuite je le reverrai chez lui à Washington, et puis on aura une longue conversation d'email, plusieurs interviews que je ferai de lui pour Radio France, pour le Nouvel Obs aussi. Et d'une certaine manière, il va me donner un peu la clé de ce livre. Je ne veux pas exagérer ça, mais c'est vrai que la dimension d'Occident Plus, c'est-à-dire cette deuxième critique qui nous est faite, a été beaucoup inspirée par lui. Parce que je retrouvais à travers lui non seulement des arguments que je connaissais en Chine, en Russie ou chez les islamistes, mais aussi des lectures, des auteurs, des références communes, alors même que Bannon, par nature, n'est pas censé être proche des Chinois ou même des Russes. Par exemple, vous avez quelqu'un qui s'appelle Olavo de Carvalho, qui est une espèce de figure un peu déjantée et complètement, d'ailleurs, complotiste, etc., qui est un intellectuel, entre guillemets, brésilien, très influent, parce qu'il a quand même été le maître à penser de Bolsonaro, quand même président du Brésil, et à qui d'ailleurs Bolsonaro va proposer d'être ministre de l'Éducation nationale, ce qu'il va refuser. C'est une figure extrêmement complexe, de peur réellement, de peur essentielle de la modernité. Qui renoue avec le christianisme, qui pense que le christianisme est la solution, mais qui en même temps est déçu et donc va se convertir à l'islam. Donc on voit déjà la complexité du type. Il va multiplier les fake news sur le Covid, par exemple, et il va mourir du Covid. Il va avoir plusieurs femmes, comme l'islamisme, en tout cas certaines formes peuvent le permettre, etc. Et lui, il va se mettre à dialoguer avec Alexandre Douguine, l'un des, entre guillemets, propagandistes de la sphère, disons, poutinienne en Russie. Et Bannon me parle de ces deux personnes, qui eux-mêmes vont faire un livre ensemble. Alors que rien ne devrait relier ce Olavo de Carvalho farfelu et Douguine, qui est un néofasciste, disons, antisémite, qui représente le rouge-brun. Une autre figure, et je termine sur ça, qui est extrêmement importante, qui relie tous ces gens-là, c'est Che Guevara. Che Guevara, qui est évidemment une figure mort depuis 67, j'étais à peine né, vous voyez, je nais au moment où il meurt, et qui aujourd'hui continue à infuser comme ça, de manière maléfique et extrêmement criminelle, tout un tas d'organisations, puisqu'on le retrouve chez les narcotrafiquants. On le retrouve évidemment dans, disons, Cuba, évidemment Chavez, le Venezuela et tout ça. Mais c'est une figure qu'on a partout chez les islamistes et même chez les, comment dire, chez les terroristes du type FPLP qui sont fascinés par Che Guevara les camps palestiniens où je les ai rencontrés, par exemple en Jordanie ou au Liban.
Et demeure un romantisme aussi autour de la figure de Schopenhauer.
Oui, ben, alors c'est ça au fond l'idée. D'ailleurs, relisez le grand livre d'Albert Camus qui est sur cette thématique-là. Oui. C'est comment au fond un projet romantique d'essayer de révolutionnaire, comment ce projet-là presque toujours se retourne contre les peuples. Et ce romantisme-là, pardon de le dire un peu brutalement, mais j'ai pu dans ma jeunesse, j'ai eu aussi de loin comme ça, sans travailler, Che Guevara paraît quelqu'un de sympathique, de même que Trotsky ou Gramsci ou même Mao à certaines époques. J'ai jamais été aucun de, ni maoïste, ni trotskiste, ni même guévariste. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'on est face à des dictateurs abominables en réalité, et qui, sous couvert de ce romantisme, sont des criminels de guerre.
Alors, nous l'avons dit, vous avez traversé le monde pour écrire ce livre. Et ici, à Academ, vous vous en doutez, il y a une région qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le Proche-Orient, et d'ailleurs qui occupe une place vraiment importante dans votre livre, et pour cause, puisque Israël agrège toutes les haines anti-occidentales, puisqu'il est largement perçu comme l'avant-poste de l'Occident planté au cœur du monde arabe. Et il est perçu comme un anachronisme, comme une nouvelle domination étrangère qui a pris naissance au moment des décolonisations. Et vous dites bien qu'au cœur de l'antisionisme se loge cette grille de lecture coloniale. Et vous établissez une généalogie de cette grille de lecture, vous montrez que Nasser en a été l'un des promoteurs.
Ce que vous dites est un parfait résumé de ce que j'ai essayé d'écrire. C'est, moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas arabe, donc j'essaye de garder mes distances et surtout dans les tout petits interstices qui aujourd'hui existent pour peut-être créer des dialogues et des, sinon la paix, au moins des perspectives de paix. J'essaie de, dès qu'il y a quelque chose, j'essaie de prendre cette voie-là. Israël, c'est un pays que j'aime vraiment profondément. C'est un pays, je dirais, avec peut-être les États-Unis, un des pays où je me sens bien, où je vais chaque année depuis...
Vous dites, vous y allez depuis 30 ans.
Oui, après il y a eu le Covid, etc. Mais j'essaie d'y aller chaque année, toujours d'ailleurs en Israël et en Palestine. Je vais systématiquement à Ramallah. Je vis, généralement, je vais dans les deux villes. Je vis toujours d'ailleurs en zone arabe pour des raisons purement... Je sais pas, j'ai adopté un hôtel à Jérusalem qui est en zone arabe. Je suis allé aussi deux fois à Gaza. Et effectivement, on comprend très vite qu'Israël est perçu, et de manière d'ailleurs sincère par beaucoup, comme effectivement un pays anachronique, un pays, implanté là par l'impérialisme, je dirais, le sionisme, les Américains, les Européens. Et alors, moi j'écoute ces discours, je les écoute depuis d'ailleurs 30 ans, que ce soit au Caire, que ce soit avec les Frères musulmans en Algérie, que ce soit... avec des groupes terroristes que j'ai infiltrés, que ce soit le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique. J'ai rencontré beaucoup de ces leaders, des gens souvent qui avaient fait de la prison parce qu'ils avaient soit commis des meurtres, soit participé à des commandos. Par exemple, j'ai rencontré l'un des fondateurs du djihad islamique égyptien qui était dans le commando, pas lui-même, mais disons qu'il avait participé à la réflexion pour assassiner Sadat.
Et d'ailleurs, entre parenthèses, les entretiens que vous menez avec ces personnes-là, parce que vous avez rencontré aussi des dirigeants du Hezbollah, etc., ça se passe comment, ces moments-là ?
Il faut partir quand même du point de départ, qui est que rencontrer des gens du Hezbollah au Liban, ce n'est pas très compliqué. Il y en a beaucoup. Donc, il suffit d'aller dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc, généralement, vous êtes autorisé, si on vous demande une autorisation, il y a des services de presse, il y a un bureau, je ne sais pas s'il n'a pas été bombardé, mais il y avait un bureau encore récemment dans le sud Liban, dans ce qu'on appelle la banlieue sud, qui est la zone chiite. Vous avez un bureau, il y a écrit « Service de presse du Hezbollah ». Donc, vous allez là, vous donnez votre passeport, vous rencontrez les gens. Et après, ils vous proposent de rencontrer un certain nombre de responsables. Vous ne savez jamais... totalement qui ils sont, parce que c'est toujours assez complexe. Et parfois même, je le raconte, je suis rentré dans des bunkers très souterrains, 3 ou 4 étages sous terre, vous marchez 50, 60, 80 mètres sous terre, vous arrivez dans des amphithéâtres qui sont 200 fois plus grand que cette pièce et où vous avez 1000 personnes qui peu à peu arrivent, tous les leaders civils, mais aussi militaires du Hezbollah, qui sont dégradés, etc. Et tout à coup, Hassan Nasrallah qui apparaît sur l'écran, il n'est pas là physiquement, on ne sait pas où il est, mais il est là en vidéo, et tout le monde se lève avec des chansons évidemment guerrières, des signes religieux et prêt à partir en guerre contre Israël. Mais pour revenir à ce... et le risque est relativement limité, je vous rassure. Quand vous êtes accrédité par le Hezbollah ou par le Hamas pour rencontrer ces gens-là, généralement, vous savez, ces gens souhaitent défendre leurs idées aussi.
Donc,
et puis, moi, je suis français, c'est quand même la grande force de la France, c'est qu'au fond, la France, on parle aux Israéliens, on parle aux Palestiniens, on parle aux chiites, on parle aux sunnites, on parle aux Iraniens et aux Saoudiens. C'est un peu ça, la France. Et pour le coup, je suis très convaincu qu'on doit continuer à faire ça. Et on est toujours bien reçu. J'aurais été juif, arabe, ou j'aurais été, je dirais, américain, sans doute que ça aurait été en Israël ou en Palestine, la réception aurait été plus difficile et les gens m'auraient moins fait confiance. Mais alors, un Français est bien reçu. Mais pour revenir
Revenir à Nasser.
Pour revenir à votre... Oui, je crois que, en fait... De la même manière que les anti-occidentaux nous décrivent, nous, Européens, ou parfois les Américains, comme étant un ennemi, encore une fois, fantasmagorique, totalement inventé, il est clair qu'Israël est devenu aussi cet ennemi-là à partir de tout un tas de caractéristiques incroyables. Et Nasser, mais c'est vrai aussi dans l'islamisme des frères musulmans, etc., s'est lui-même construit une image totalement, je dirais, c'est même pas que je veux la défendre ou la critiquer, c'est juste qu'elle est fausse de ce qu'est Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'abord que c'est un pays qui a été inventé de toutes pièces par l'impérialisme, donc évidemment une condamnation radicale du sionisme. Au demeurant, je pense qu'on peut, il n'est pas illégitime de discuter de la pertinence du sionisme jusqu'en 1948. Je pense que c'est deux choses très différentes. Tant que l'État d'Israël n'est pas créé, on peut avoir légitimement un débat, savoir est-ce que le retour à Sion doit être encouragé. Certains peuvent penser que oui, d'autres penser que non. Je pense qu'à partir du moment où l'État d'Israël existe, il est reconnu, et surtout aujourd'hui, vous avez plus de 10 millions de juifs, en tout cas d'israéliens, sur cette terre de Palestine, le débat n'existe plus. C'est-à-dire que pour le coup, je pense que l'antisionisme est un antisémitisme au-delà de 48.
Après 48. Voilà.
Ça, c'est, alors donc, c'est pour ça qu'il faut un peu faire des nuances. Je pense qu'on a le droit de critiquer le sionisme. Je pense qu'avant 48, je pense qu'aujourd'hui, c'est nier l'existence d'un État. Et c'est dire aussi, c'est ce que dit Nasser, ce que dit Arafat. Ces juifs, finalement, ils vont rentrer chez eux. Finalement, ils sont là, et ils le disent évidemment de manière très, très violente, mais aussi de manière très intellectualisée pour expliquer pourquoi c'est un nouveau colonialisme. Je pense exactement le contraire. Je pense qu'Israël, et encore une fois, il y a beaucoup de choses à critiquer, qu'on peut critiquer dans Israël, et dans notamment les évolutions plus récentes. Mais fondamentalement, c'est aussi, je ne dis pas seulement, mais aussi un projet d'émancipation nationale. C'est aussi un projet de libération nationale. Et c'est paradoxalement l'une des premières décolonisations. C'est ça que Nasser, Arafat, etc. n'ont pas compris. C'est leur erreur majeure. Pourquoi ? Parce que c'est une émancipation par rapport aux Anglais. Et donc, c'est la création d'un pays indépendant contre le colonialisme britannique. Alors, il est évident qu'il va y avoir aussi les Palestiniens. Donc, il y a un deuxième projet d'émancipation nationale parallèle. Et c'est d'ailleurs pour ça que le problème est là. C'est que vous avez, au fond, deux peuples qui sont légitimes sur cette terre, qu'on a d'ailleurs reconnus dans les deux cas. Et toute la question va être comment on va essayer, et on n'a pas réussi jusqu'à ce jour, à articuler ces deux projets justes en tant que tels.
Alors, il y a une autre figure à laquelle vous consacrez des pages importantes, et quelque part, qui traverse tout votre livre, c'est le grand intellectuel palestinien Edouard Saïd, puisque votre livre est d'une certaine manière une réponse peut-être, ou une, je ne sais pas exactement comment vous le direz, une prolongation peut-être.
Oui, une inversion même.
C'est ça, de son ouvrage majeur, l'orientalisme, parce que lui, justement, il débusquait tous les préjugés construits en fait sur l'Orient, et vous, d'une certaine manière, en miroir, vous faites la même chose sur l'Occident.
Absolument. On peut même dire que c'est le projet. Je pense même que c'est, quand je lis l'orientalisme, mm-hmm. qui est d'ailleurs un livre difficile à lire, très littéraire. Il faut connaître par cœur Flaubert et comment dire, l'histoire de la littérature britannique, enfin anglaise et aussi française, et puis Napoléon, etc., pour le lire. Oui, ce qui est fascinant avec Édouard Saïd, qui est par ailleurs une figure, c'est un livre important, c'est un livre mm-hmm. aussi qui a infusé, comme on dit, puisqu'aujourd'hui, toutes les études postcoloniales, décoloniales, sont très marquées par l'un de leurs pères fondateurs, à savoir Édouard Saïd. Édouard Saïd, c'est d'abord un Américain. Il a la nationalité américaine. Mmh. Et j'ai découvert, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'est très prouvé, que, en fait, dès le début, il parle anglais dans sa famille, en Égypte, au Caire. Alors, il est certes palestinien, contrairement à ce que certains ont dit, qui ont voulu nier son lien avec Jérusalem. Il est bien né à Jérusalem, mais très vite, pour des raisons... évidente, il a dû s'exiler et aussi il appartient à une famille ultra riche. Hein.
Mm-hmm.
Il a d'ailleurs toujours un petit magasin où je suis allé très souvent à Jérusalem Est, près de la porte de Damas justement, qui est une librairie, un magasin de papeterie, une papeterie qui appartenait à la famille Saïd.
Et vous dites qu'on trouve de tout d'ailleurs dans cette librairie.
Oui, d'ailleurs.
Tous les auteurs.
Oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est vrai toujours en Israël. Vous avez presque toujours à la fois des auteurs palestiniens, parfois même des auteurs qu'on peut dire allant vers le terrorisme, mais aussi les auteurs israéliens. Alors, pas toujours les plus pro, je dirais, les colons par exemple, mais enfin, vous avez non seulement les critiques israéliennes classiques, mais aussi des histoires israéliennes assez honnêtes. Je sais pas, Barnavi, par exemple, des gens comme ça. Mais le point principal, c'est que la famille Saïd va... Donc, c'est une famille très bourgeoise, même, on pourrait dire aristocratique, très riche. Il va avoir la nationalité américaine, il va parler anglais. Et d'ailleurs, il ne parle pas bien arabe. Parce que je découvre qu'il va retourner au Liban après 67 pour améliorer son arabe. Ce qui en dit long quand même sur la grande figure palestinienne qui, au fond, n'est pas palestinien et ne connaît pas vraiment ce territoire. Il va y retourner par la suite.
Mais ce qui dit aussi la difficulté de...
Certes, mais si vous voulez, ce qui m'intéresse chez cet auteur, c'est comment il va effectivement débusquer les préjugés que nous autres occidentaux, au sens très long de l'histoire, vont avoir contre l'Orient, et en même temps, lui-même être une caricature de préjugés contre l'Occident. Il est effectivement une figure caricaturale de la gauche extrême qui va, au fond, lui aussi contribuer à créer une image assez fausse d'Israël, se tromper profondément, comme Arafat, dont il est proche, du FPLP, le Front palestinien de libération populaire, qui est un groupe terroriste, dont il va également être proche. Mm-hmm. Et ce qui est fascinant et triste avec Édouard Saïd, c'est que c'est un homme qui va accompagner ces groupes terroristes sur le plan intellectuel, et que le moment où ces groupes basculent, en tout cas pour Arafat et le Fatah à Oslo, pour basculer sur la paix, il va rejeter cette paix très violemment. Et au fond, il s'est presque toujours trompé. Mmh. Il n'était pas du côté de la paix avant, il aurait pu l'être. Il n'est pas du côté de la paix après Oslo, alors qu'il aurait pu l'être.
Vous dites, je vous cite, « La Palestine aurait mérité un meilleur avocat plutôt qu'un nouveau penseur simplement anti-occidental. »
Oui, c'est-à-dire que je pense que vous ne pouvez pas... si vous voulez, sur ce qui est quand même une question très complexe, la question israélo-palestinienne, tous ceux qui entretiennent les préjugés, nourrissent la violence, sont toujours du côté de la démagogie, n'ont pas été au service de la paix. Et je ne crois pas qu'Édouard Saïd, en fin de compte, ni beaucoup, n'ont aidé la Palestine. Parce que on en est là, on est en 2026, avec un résultat qui est terrible pour tout le monde. Et je ne sais pas s'il y avait une solution, plutôt, même si on la connaît d'une certaine manière, la solution. On la connaît au Liban aussi, on pourra y revenir. Mais je crois qu'il est important de défendre ceux qui créent des rapprochements et d'ailleurs se fondent toujours sur la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme pour avancer plutôt que ceux qui nourrissent des forces, qu'elles soient terroristes ou qu'elles soient même ultranationalistes.
Mmh. Alors, on l'a bien compris, vous faites un sort à cette lecture coloniale qui fait d'Israël un projet occidental, impérial, puisque, voilà, vous l'avez rappelé, Israël est né aussi, c'est aussi un mouvement décolonial juif. Mais vous ne vous limitez pas là, puisque vous poursuivez votre analyse et vous avez observé un glissement dans la société israélienne. Vous dites qu'elle est travaillée elle-même aujourd'hui par des forces anti-occidentales. Et il y en a plusieurs.
Oui, alors ça, c'est peut-être la dimension qui m'inquiète un petit peu par rapport à Israël, même si je ne juge pas ces pays. Encore une fois, je suis français, je suis un observateur d'Israël. Je ne suis pas un participant du projet de la société israélienne actuelle. Il y a, dans toutes les sociétés, des forces contradictoires. On a aussi en France des forces antimodernes, des forces antidémocratiques, qu'elles soient d'ailleurs de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Donc il n'est pas anormal qu'elles existent aussi en Israël. La différence peut-être, qu'il ne faut sans doute pas exagérer, mais malgré tout elle existe, c'est des forces anti-occidentales très puissantes en Israël, qui, me semble-t-il, se sont d'ailleurs radicalisées depuis disons, l'arrivée des Russes massivement après la chute du communisme, peut-être les séfarades aussi, qui avaient une histoire différente. D'ailleurs, n'oublions pas qu'Israël s'est aussi construit sur des exilés arabes, des exilés du Maroc, de l'Algérie, beaucoup de l'Égypte. Vous savez, il y avait des dizaines de milliers de Juifs en Égypte. Il y en a aujourd'hui, je crois, 11. Donc ils sont tous partis. Ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis en France, en Europe, mais ils sont aussi partis en Israël. Et d'ailleurs, quand on dit qu'ils pourraient rentrer chez eux, c'est l'idée d'Arafat. Longuement, Arafat pensait que c'était fini, qu'ils allaient rentrer chez eux, qu'au fond, le terrorisme allait permettre de les effrayer. Il n'y aurait plus de business, les Juifs ne feraient plus leur aliyah pour rentrer en Israël, et qu'après, il suffirait d'un petit coup militaire grâce à Nasser et aux Jordaniens, et hop, Israël serait rayé de la carte. Et c'est l'inverse qui se passe. Vous avez 1 million de plus de Juifs qui arrivent quasiment tous les 10 ans depuis 1948, pour arriver à plus de 10 millions aujourd'hui. Voilà. Et donc, là, effectivement, la question se pose, c'est jusqu'à quel point Israël est un projet très singulier, jusqu'à quel point il est anormal, au sens de ce n'est pas un pays normal. Mais c'est pas une critique, hein, c'est plutôt même intéressant. Des pays, il y a beaucoup de pays anormaux. Le Liban en est un singulier. On peut dire aussi, d'une certaine manière, que Cuba en est un. On pourrait prendre d'autres exemples. La Chine à sa façon, bien sûr. Et donc, où est-ce que c'est en effet un projet qui est plus conforme à la tradition, disons, occidentale?
Mais ça, c'est sur le projet. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il devient, vous parlez d'un nationalisme florissant. Vous dites que Netanyahou emmène Israël quelque part sur une sorte de nouvelle Hongrie, enfin quelque chose qui ressemblerait à la Hongrie, alors la Hongrie de Viktor Orban. Vous dites d'ailleurs que Benjamin Netanyahou est une sorte de Viktor Orban avec kippa, que je trouve définitivement plus éclairant qu'un nazi.
Oui, en réalité, on peut aussi dire qu'Orban était une sorte de Netanyahou, parce que vous savez que Netanyahou est là depuis...
Des décennies.
En 1997, il y avait déjà des critiques de Netanyahou, donc au fond, il est antérieur à Orban. Ce qui est intéressant et positif, essayons de positiver sur un sujet souvent triste et pessimiste, moi je crois à la démocratie israélienne. En tout cas, j'y crois encore. Comme je crois encore, bien sûr, à la démocratie américaine. Je pense qu'on peut avoir en octobre prochain, ou même avant, les élections peuvent arriver en juin, peuvent arriver début juillet ou fin août, avant ou après les vacances. Il est possible que, aujourd'hui, le débat n'est plus droite-gauche en Israël. Comme vous savez, la gauche étant d'ailleurs très faible. C'est plutôt le projet, est-ce qu'on est pour cette idéologie, cette coalition de Bibi, Netanyahou, ou est-ce qu'on est pour une coalition anti-Bibi? Enfin, en gros, c'est comme ça, je pense, que je lis la politique israélienne. Et la coalition anti-Bibi peut très bien gagner les élections. Donc, le projet peut évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il changera radicalement, puisque je pense qu'il y a aussi des constantes. Comme aux États-Unis, vous avez une constante qui est que c'est un pays... Make America Great Again, les démocrates le font aussi. Donc, il ne faut pas non plus rêver à une Amérique qui, tout à coup, se saborderait, se mettrait à défendre l'Union européenne. C'est évidemment pas ce qui va se passer. De même qu'Israël ne va pas devenir du jour au lendemain un pays qui oublie la géopolitique dans laquelle, n'oublions pas d'ailleurs ce sujet, que tous ceux qui oublient la géopolitique régionale ne comprennent pas Israël. Israël n'est pas non plus tout ce qui se passe en Israël, évidemment très indexé sur ce qui se passe en Iran, ce qui se passe au Liban, un peu moins aujourd'hui en Jordanie ou en Égypte grâce à la paix, mais ça reste évidemment un projet... Israël doit se défendre, quoi qu'il arrive.
Malgré tout, il y a cette nouvelle force qui existe aujourd'hui dans la société israélienne, ce sont les colons. Et d'ailleurs, vous êtes parti à leur rencontre, vous êtes allé leur parler également. Ceux qui rêvent d'un grand Israël, ceux qui rêvent d'un Israël de la rivière à la mer, et qui sont mus par une sorte de messianisme politique.
Oui, en fait, j'avais du mal à comprendre le projet des colons. Et j'étais un peu, comment dire... comme beaucoup, vu de France, à la fois naïf, parfois sur leur logique profonde, et aussi, et j'avais aussi des arguments parfois en leur faveur qui restent vrais pour partie, c'est-à-dire que pour protéger Jérusalem et Tel Aviv, au fond, vous devez aussi, d'une certaine manière, être présent, contrôler Ramallah, pour aller vite. Et donc, du coup, vous avez besoin que l'armée soit là. Hein, qui, je rappelle quand même que Oslo autorise le contrôle par l'armée israélienne de la zone C entièrement, un peu moins pour la zone B et plus du tout pour la zone A en Cisjordanie. Et puis, du coup, vous avez besoin de colonies pour justifier l'armée. Et puis, l'armée est là pour justifier la colonie. Et au fond, l'un l'autre se nourrissent au point où vous avez des colonies de plus en plus grandes et des militaires de plus en plus nombreux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand on les rencontre, qu'on les fréquente, on s'aperçoit, même s'il y a aussi beaucoup de variantes, il y a une dimension économique, ça coûte moins cher d'habiter les colonies, c'est aussi une manière de, pour des nouveaux venus en Israël de trouver facilement, de s'installer collectivement dans des quartiers nouveaux, etc. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose, je crois qu'il y a un messianisme qui est pour partie religieux, mais qui est pour partie pas religieux. Les plus religieux ne sont pas forcément dans les colonies. Les plus religieux, ils sont à Jérusalem-Est, ils sont ailleurs. Vous avez aussi un projet, je pense, marquer la terre. C'est-à-dire être là pour dire que cette terre est juive. Et pour dire aussi que cette terre, elle sera dangereuse pour les juifs si elle n'est pas juive. Et je crois que, voilà, moi je regarde ça avec beaucoup de distance. C'est-à-dire que j'essaie d'éviter de juger ni les Palestiniens qui sont dans un projet de grande Palestine, ni les Juifs qui sont projetés dans un grand Israël. Mais il est clair qu'il n'y a pas d'autre solution à la paix, mais même sans rêver à la paix, tout simplement, à arrêter la violence, si on n'a pas, si on ne met pas fin d'un côté au projet du grand Israël et de l'autre côté au projet de la grande Palestine. Il n'y a pas de solution là.
Alors, vous concluez ce livre avec un épilogue extrêmement intéressant. Vous êtes assez cinglant à l'égard des intellectuels. Vous dites que les intellectuels ont une grande part dans le chaos du monde lorsqu'ils défendent l'indéfendable.
Oui, enfin, revenons en arrière, revenons à Sartre, revenons à tous ces intellectuels, notamment français, mais pas seulement, européens, américains, qui ont défendu l'Union soviétique, le stalinisme, qui ont défendu maoïsme, qui ont défendu même Trotsky, qui ont défendu Fidel Castro. Il y a beaucoup de pages sur Fidel et sur Cuba, qui ont défendu Che Guevara, on le disait, qui ont défendu Chavez, qui ont défendu l'islamisme. Regardons ces profils incroyables de gens qui viennent du communisme et qui sont aujourd'hui pro-Hezbollah. Comment c'est possible? Comment vous passez d'une erreur à une autre erreur? Je dirais d'une erreur grotesque à une erreur encore plus criminelle. C'est logique, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre ces gens, et encore une fois, en les ayant vus, mais après, je ne suis pas romantique à leur égard. Je considère que ce sont souvent des criminels, souvent des ils nourrissent ce chaos. Et je crois que ça peut plus être ça aujourd'hui, le métier de l'intellectuel, même du journaliste ou de l'académique. Et encore une fois, le débat est libre, et on est en Occident, donc on est en Europe, en France, donc tout le monde a le droit de défendre des idées. Dès lors que vous n'êtes pas un criminel, vous avez le droit, au fond, de défendre l'indéfendable. On a aussi le droit de les critiquer. Voilà. On est, comme eux peuvent dire des bêtises, nous, on peut aussi dire qu'ils disent des bêtises.
Il y a une responsabilité.
Oui, je pense qu'il y a une responsabilité. Le général de Gaulle le disait, d'ailleurs, il y a un moment, l'irresponsabilité des intellectuels doit cesser. À un moment, vous ne pouvez pas, comme Édouard Saïd, défendre, et c'est très légitime de défendre la cause palestinienne. J'ai aucun problème là-dessus. Mais vous ne pouvez pas défendre la cause palestinienne si ce que vous dites mène à la mort des Juifs. Vous ne pouvez pas défendre la cause palestinienne si ce que vous dites mène à la mort de Palestiniens. Parce que défendre le Hamas, c'est tuer d'abord des Palestiniens. D'abord. Parce que j'ai été à Gaza, j'étais avec des groupes terroristes dont la première objectif, c'est de tuer les gens du Fatah. Et les gens du Fatah, d'ailleurs, de tuer les gens du Hamas. Mmh. Donc, voilà, je ne pense pas que ce puisse être un projet qu'en tout cas un intellectuel... Un intellectuel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va quand même essayer de comprendre les faits, d'essayer d'écouter les différentes paroles. Et à la fin, je ne dis pas que le projet de l'intellectuel, c'est forcément la paix. La paix n'est pas toujours la solution. Parfois, il faut aussi savoir mener des guerres. Mais l'objectif final, c'est de permettre aux gens de dialoguer et de vivre en paix. Si vous êtes dans des logiques qui mènent à la guerre, me semble-t-il, vous êtes en contradiction avec ce qu'est la définition de l'intellectuel. Vous devenez un propagandiste, vous devenez un militant. Et moi, je crois que dans ce livre, je ne suis jamais un militant.
Eh bien, justement, vous mettez au centre de votre engagement intellectuel cette notion de responsabilité. Pour vous, enfin, vous dites qu'il est urgent de tracer des lignes de démarcation claires à droite contre l'extrême droite, à gauche contre l'extrême gauche, avec toujours pour boussole les droits humains.
Oui, c'est-à-dire que, en gros, on peut tout dire et on peut... Le spectre est quand même assez vaste, je dirais, pour le dire en termes français, entre Bruno Retailleau et Clémentine Autain. Le débat est légitime et vous avez le droit d'être en conflit intellectuel, idéologique, les uns entre partis, entre figures politiques. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi déterminer ce qui n'est plus de l'ordre du débat public. Et c'est pour ça que j'essaye de déterminer ces deux frontières et de manière précise et je dirais définitive entre la gauche et l'extrême gauche, entre la droite et l'extrême droite. Le projet d'Orban, c'est un projet d'extrême droite. C'est un projet qui vient détruire la démocratie, l'état de droit, qui nourrit une corruption généralisée, qui détruit la liberté de la presse et la liberté finalement d'association, même s'il restait dans un cadre européen, ce qui limitait un tout petit peu ses velléités. Voilà, le nouveau Premier ministre hongrois, qui est tout aussi conservateur et qui est tout aussi de droite, dur, il n'est pas d'extrême droite. Mmh. Et donc là, il y a la frontière entre les deux. De même, voilà, moi, sans vouloir trop personnaliser, je pense que Rima Hassan n'est pas de gauche. Quand vous défendez la Syrie de Bachar al-Assad et que la Syrie de Bachar al-Assad a tué plus de 500 000 Arabes, dont une très grande majorité sont des musulmans, et parmi eux, il y a beaucoup de Palestiniens, vous ne pouvez pas après prétendre venir défendre la Palestine. Mmh. Vous ne défendez pas la Palestine si vous défendez le Hamas ou le Hezbollah. Le Hezbollah, historiquement, alors il n'existait pas à cette époque-là, mais les forces chiites de ce type tuaient des Palestiniens pendant la guerre du Liban. Elles étaient hostiles aux Palestiniens. Aujourd'hui, les gens du Hezbollah ne se sont jamais souciés des Palestiniens. Le Hezbollah nie les droits des Palestiniens. Il refuse qu'ils aient des papiers d'identité. Il refuse qu'ils sortent des camps palestiniens, par exemple de Sabra et Shatila, etc. Il refuse qu'ils puissent occuper plus de 50 à 60 métiers qui sont toujours interdits aux Palestiniens au Liban. Vous ne pouvez pas dire que vous défendez les Palestiniens. Le Hezbollah se fout des Palestiniens. Mmh. Ça n'a jamais été son projet. De même que les Iraniens n'ont jamais eu le souci des Palestiniens. Donc, vous n'êtes pas de gauche et vous n'êtes pas pro-palestinienne quand vous défendez ces forces-là. Encore une fois, ça n'enlève rien à la juste défense de la création d'un État palestinien et de défendre, évidemment, et de condamner les violences dont les Palestiniens sont l'objet quotidiennement en Cisjordanie et de manière avec des crimes de guerre abominables à Gaza. Mmh. Mais voilà, je pense que vous devez être du côté de la paix systématiquement. Et c'est vrai aussi de l'extrême droite. Vous ne pouvez pas être un parti politique français et aller en Russie pour chercher de l'argent. Vous ne pouvez pas être un parti d'extrême gauche français et aller au Venezuela pour vous faire aider par Chavez. Voilà, pour moi, c'est ni LFI, ni RN. Et d'une certaine manière, je pense que les relations internationales sont l'endroit où vous pouvez comprendre et démasquer les dérives de ces forces extrémistes de droite comme de gauche. C'est sur l'international qu'on comprend leur projet.
Mmh. Je vous remercie Frédéric Martel. Je rappelle le titre de votre livre, Occident, qui paraît chez Plon. Merci beaucoup.